Vous êtes sur RTL. RTL Soir
avec Stéphane Carpentier.
Éric Brunet et sa liberté de parole prennent les commandes le vendredi dans RTL Soir. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Pour les temps forts de la semaine, ceux qui vous ont marqué, ça commence mercredi avec Emmanuel Macron qui a annoncé la mise en place d'un couvre-feu en Île-de-France et dans 8 autres métropoles.
Eh oui, le couvre-feu. À l'origine d'ailleurs, le couvre-feu ne visait pas du tout à empêcher les gens de sortir. Au Moyen-Âge, à la tombée de la nuit, une cloche sonnait dans les villes pour avertir la population qu'il était temps de recouvrir le foyer d'un couvercle de métal, de bronze, afin d'éviter les incendies pendant que les gens dormaient. Alors depuis, bien sûr, le couvre-feu a évolué. En 2005, lors des émeutes du mois de novembre, dans de nombreuses villes françaises, Nice, Orléans, Le Havre, Amiens, Rouen, on l'avait réactivé. Et puis, il y a eu l'histoire de la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, Stéphane, un couvre-feu avait été décrété en métropole, mais il ne visait que les Français musulmans qui travaillaient en France. Le plus long couvre-feu qu'ait connu la France, c'est bien sûr celui de l'occupation. Les Allemands l'ont mis en place à partir de 1941 dans certaines zones pour limiter les activités clandestines. Pour les contrevenants, c'était pas 135 euros d'amende à l'époque, mais la possibilité d'être déporté ou fusillé. Cela a donné naissance assez curieusement à une expression qui a aujourd'hui disparu, se faire appeler Arthur. Ça voulait dire se faire engueuler. Les soldats allemands hurlaient en effet à 8 heures, ils hurlaient Arthur, qui veut dire 8 heures, l'heure du couvre-feu.
Il y a un livre qui vous a intéressé cette semaine, nouveau livre du général Pierre de Villiers qui est sorti mercredi. Le titre c'est « L'équilibre est un courage ».
Oui, un titre qui sonne comme un slogan de campagne, et le sous-titre alors encore davantage est « Réparer la France ». Depuis son départ fracassant du poste de chef d'état-major des armées, quelques semaines seulement après l'arrivée au pouvoir de Macron, le général est devenu le militaire le plus populaire de France. La foule se presse à ses conférences, ses dédicaces. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, des meneurs l'ont carrément appelé à l'Élysée. Pour les européennes de 2019, Laurent Wauquiez lui avait proposé de mener la liste LR et ces derniers mois, on le reçoit beaucoup, à déjeuner, à dîner, Valérie Pécresse, Éric Ciotti. Pour la droite, il a le profil idéal, c'est le frère de Philippe de Villiers, il est militaire, il incarne l'autorité et surtout il est général, suivez mon regard, comme De Gaulle. Mon Dieu, que nous sommes nostalgiques des 30 glorieuses pendant ces mois de Covid. On regarde des vieux films avec De Funès, Belmondo. On écoute des vieilles chansons de Brassens, de Brel, d'Aznavour, de Michel Delpech, de Johnny. Et certains espèrent en Pierre de Villiers, un nouvel homme providentiel. Si j'osais, Stéphane, je vous dirais qu'il est quand même moins grossier que Jean-Marie Bigard et moins démagogue que Vincent Lindon.
Et vous avez osé, évidemment, Éric Brunet. Mercredi, le FMI a recommandé aux États d'augmenter les impôts des plus riches pour faire face à la crise du coronavirus.
Eh oui, c'est ce que préconise l'économiste Thomas Piketty, partisan acharné de la fiscalité anti-riche. Faut-il encore taxer les classes supérieures? C'est le débat. Moi, je vais vous parler de l'exemple anglais. Le Royaume-Uni, dans les années 70, était le pays le plus imposé d'Europe, voire même du monde, avec un système fiscal confiscatoire. La tranche supérieure d'imposition sur le capital était de 98%. Celle sur les salaires, 83%. C'est l'époque où les Beatles chantaient Taxman. Même les Rolling Stones avaient dû s'exiler en France pour échapper au fisc britannique. Drôle d'époque, d'ailleurs, où la France faisait figure de paradis fiscal. Bon, alors, bien évidemment, l'Angleterre des années 70, c'était inflation record, endettement considérable. Bon, tout ça est terminé, je vous rassure, l'Angleterre n'est plus le pays le plus taxé du monde. Non, non, c'est la France, voilà. Alors, taxer encore plus les riches, à vous de voir les amis, moi je ne me prononce pas.
Et puis jeudi on apprenait que le réalisateur Ridley Scott préparait un film sur Napoléon.
Ah mais quelle histoire! À 82 ans, ce réalisateur bien connu américano-britannique se lance dans ce biopic, voilà, avec Joaquin Phoenix, Oscar 2020 de meilleur acteur. Voilà, alors ça parlera de la jeunesse de Napoléon et de sa relation amoureuse avec Joséphine. Mais c'est pas vraiment une surprise, on sait que Ridley Scott adore l'histoire de France. Il est en train de terminer là en ce moment un autre film qui met à l'honneur l'histoire de France. Ça va s'appeler The Last Duel avec Matt Damon et Ben Affleck. Ça raconte compte en 1386 le dernier duel judiciaire en France entre messieurs Carouge et Legris. On connaît même pas, nous. Alors Ridley Scott fait pas exception. L'histoire de France passionne tous les cinéastes du monde entier. Hein, voilà, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, etc. Enfin, je devrais plutôt parler au passé, parce que aujourd'hui, la fiction française est beaucoup moins présente, par exemple, sur les plateformes comme Netflix. C'est malheureux d'ailleurs de voir que les réalisateurs français actuels s'intéressent eux-mêmes moins à leur histoire que les Américains. Chez nous, on a parfois l'impression qu'on fait des films sur la banlieue, mais jamais sur notre histoire. Comment expliquer que nous n'ayons jamais filmé le grand biopic sur Napoléon? Enfin quoi, Napoléon, c'est le Français le plus célèbre du monde. Même Stanley Kubrick avait décidé de s'y attaquer à la vie de Napoléon avant de mourir. Très peu de films récents sur des héros du passé ou de grandes reconstitutions historiques. C'est infiniment triste, Stéphane. En se désintéressant comme ça de l'histoire de notre pays, finalement, on s'en dépossède. L'histoire est écrite par les vainqueurs de la bataille culturelle. C'est les Anglo-Saxons. Regardez ce très beau film de Christopher Nolan, Dunkerque. Eh bien, dans la réalité, cette bataille de Dunkerque, qui est l'histoire du film, qui se déroule en 1940, qui est une histoire vraie, bien sûr, elle met en présence la lutte feu allemande, les troupes anglaises et les troupes françaises. Et bien dans le film de Nolan, vous verrez les Allemands, ils sont là, vous verrez bien les Anglais, mais les Français, on les voit juste une minute au début du film et c'est fini. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment joué un rôle historique majeur en 1940 dans cette bataille. Ben voilà. Alors moi j'ai une petite suggestion à faire à ceux qui nous écoutent. Aucun film n'a encore été fait sur Monsieur Albert Roche. Alors Albert Roche, il n'est pas connu, c'est le poilu le plus décoré de la Grande Guerre, surnommé par Foch premier soldat de France. Son histoire est incroyable. À lui seul, il a fait plus de 1000 prisonniers pendant la guerre et malgré tous ses exploits, il n'a jamais pris le moindre grade. Alors, avis aux producteurs, parce que à ce rythme-là, Stéphane, ce sont les Américains qui vont faire un blockbuster de l'histoire de Albert Roche.
Le message est passé ce soir sur RTL. Éric Brunet, on vous retrouve dimanche.